L'ido est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume, rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter, la différence.
15h03 donc sur Inter, tout de suite là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Il paraît que nous sommes 7 milliards d'humains sur cette planète. Combien y a-t-il de champignons ?
Salut Daniel, ben voilà, il y en a encore marre. Peugeot, PSA, qui licencie après avoir fait 11 milliards d'euros de bénéfices, après avoir touché des subventions, après avoir été leader en 2010, avoir traversé la crise haut la main et avoir été leader de vente de voitures, je crois, dans le monde. Enfin bref, j'ai pas de journaux sous les yeux, mais ce que je veux dire, c'est que il va falloir que ça cesse, cette hémorragie. Ces boîtes qui s'enrichissent et qui se barrent après pour aller exploiter les petits Chinois, pour aller exploiter les, bah, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et puis c'est nous qui trinquons. Nous en France, voilà, bah, merci, nous en France, en Europe, etc. etc. Hein, bref, à quand la fin de ce monde capitaliste ? À quand, voilà, vivent les indignés. Les indignés d'ailleurs qui se sont fait virer ce matin de Wall Street avec perte et fracas. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. Mais il faudrait qu'ils proposent des choses, quoi, plutôt que de s'indigner. Voilà, je te remercie Daniel. À très vite et continuons ce combat. À bientôt.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Bah, c'était pour. Je me posais une question, en fait. J'entends dire que Mario Draghi et le Monti, là, ils ont travaillé pour Goldman Sachs. Ils ont travaillé, ça veut dire qu'ils ne travaillent plus, mais vous en êtes sûr de ça? Allez, salut.
Bonjour, je vous appelle parce que je viens d'entendre un message d'un auditeur qui parle de M. Berlusconi et de son départ, et où il est à moitié content. Eh bien, je voulais dire que je pense pareil. Et en fait, c'est les marchés qui l'ont viré. Vous savez quoi? On se demande pourquoi on devrait voter aujourd'hui. Parce que de toute façon, quoi qu'on vote, de toute manière, les dirigeants, c'est les marchés.
Bonjour à tous. Hier, sur la 31, près de Nancy, là, il y a des mecs qui ont fait sauter un radar à l'explosif. Hein. Et moi, je dis chapeau quand même. Hein. Chapeau. Là. Allez, bonne journée.
Ce président de la République, au lieu de s'intéresser aux arrêts maladie des salariés en mettant en avant la fraude et la suspicion, ferait mieux de s'intéresser aux causes des arrêts maladie. C'est tellement plus facile de couper les branches que de s'en prendre à la racine qui est entourée de vermine mortifère. Depuis que la droite gouverne, le harcèlement moral a explosé dans les entreprises, les suicides à répétition. Dans les grandes entreprises se multiplient. La discrimination se répand également de plus en plus pour pousser des salariés vers la sortie, qui ont le courage de refuser le management insensé, assassin, orchestré par les dirigeants qui veulent toujours plus de rendement dans le travail et toujours plus d'argent pour les actionnaires. Tous les syndicats restent trop muets aux souffrances des salariés de notre pays, qui ne favorisent pas l'unité, la solidarité, mais qui favorise l'individualisme, le repli sur soi, la peur et l'indifférence. Je suis indigné de cette politique qui prend toujours pour cible le monde du travail, alors que c'est le monde de la finance qui tue le monde du travail.
Bonjour, c'est Jean-Benoît à Tournefeuille. J'écoute l'émission concernant la réussite économique de Ramallah, et ça me fait irrésistiblement penser à un album d'Astérix, scénarisé par Goscinny, qui s'appelle Obélix et compagnie. Et les Romains décident de se débarrasser du village gaulois en les enrichissant, en leur achetant des menhirs. Eh bien, l'histoire de ces Palestiniens me fait vraiment penser à cette situation. Donc je vous invite à le relire, Obélix et compagnie, du Derzo et Goscinny, qui reste un génie indépassable.
Allô, bonjour. Voilà, je suis Madame Benamou de Melun. C'est pour l'émission de Daniel Mermet. Moi, je suis offusquée de ce que ce monsieur peut sans arrêt parler mal des Israéliens, les Palestiniens, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont malheureux, d'accord, mais qu'il arrête parce qu'il n'a pas que des Palestiniens à l'antenne. Et qu'il arrête un peu de tomber et de parler mal d'Israël. Ça suffit. Je suis Madame Benamou de Meulin, mais je suis offusquée de cette émission depuis des années. J'espère que vous ferez le nécessaire.
Madame Benamou de Meulin, on ne dit pas de mal d'Israël dans cette suite de reportages. Il arrive que la politique du gouvernement israélien soit critiquée, c'est possible, mais on ne dit pas de mal d'Israël. Ne soyez pas inquiète, Madame Benamou de Meulin. Écoutez-nous jusqu'au bout aujourd'hui, si vous voulez bien. On est à Gaza. Et à Gaza, on va rencontrer des méchants. On va rencontrer les unités armées, les factions armées qui sont proches du Hamas. Pourquoi ? Parce que ces unités armées nous semblent ne plus avoir le soutien ni le crédit qu'elles ont pu avoir à certains moments de la deuxième intifada au début des années 2000. C'est plus la même chose. Il nous semble qu'il y a que les habitants de Gaza n'ont plus, c'est plus le même soutien. Et on va s'en rendre compte en rencontrant des indignés, comme Madame Benamou, des indignés, de jeunes Palestiniens indignés. Et oui, le printemps arabe, eh ben, il est passé jusque-là, est arrivé à Gaza. Et on va voir la distance, le fossé qui peut se creuser entre cette solution armée de la résistance palestinienne qui a conduit à ce qu'il faut bien appeler l'échec de la seconde intifada. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont peut-être pas représentatifs, c'est vrai, de tous les Gazaouis, mais qui sont peut-être un symptôme d'une évolution de la situation dans cet endroit si crucial et si scruté du monde. Voilà notre sujet aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel. Il faudrait faire un reportage sur le Pôle emploi parce qu'on entend qu'ils sont mis en grève. En fait, quand tu es au chômage et que tu as affaire au personnel du Pôle emploi, tu vois à quel point le système est inefficace et stérile. Quand tu te présentes, que tu es accueilli, on te dit, mais faites le 39-49, tu te déplaces pour rien du tout. Moi, j'y suis allé, il y avait 5 personnes devant moi, à toute personne, la personne qui te reçoit te dit, faites le 39-49. Alors, il est bon que de temps en temps, ces gens-là à qui tu as affaire goûtent à la même salive amère que l'on avale nous-mêmes quand on a affaire à eux. Parce que je n'ai jamais entendu faire grève pour critiquer et dénoncer ce système par lequel on est obligé d'aller appeler un numéro de téléphone pour traiter son dossier. C'est quand même fantastique. Hein. On est au chômage, on a besoin de revenus et autres. Déjà, ils font tout pour nous les réduire. Et de surcroît, on te fait payer une communication qui est inutile. Et souvent, tu as affaire à des gens qui ne connaissent rien, qui te demandent de rappeler parce que l'interlocuteur n'est pas là. Ou enfin, un système complètement stérile et inefficace.
Salut à vous tous. Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge aura lieu ce mercredi 16 novembre à 20h30 au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, à gauche sur le parking de la gare, juste avant de passer sous le pont. Le thème de la soirée, fiscalité. Pourquoi, pour qui, comment, petit arrangement et gros cadeau. Tout un programme. Alors venez nombreux et à très bientôt. Salut à tous.
Oui, allô, bonjour. Je vous appelle, je suis un pauvre député. Je gagne 7100 euros bruts par mois. J'ai 6412 d'indemnité représentative. Ça fait 13512 euros. Et on a voulu diminuer de 10% ma rémunération. Vous pensez bien que j'ai refusé ? Alors que l'ensemble des Français ont un salaire brut moyen de 2753 euros. Mais enfin, vous n'avez toujours pas compris, c'est vous qui allez faire des efforts. Moi, je n'en ferai pas. Allez, au revoir mes petits pigeons, à bientôt.
الجهاد الإسلامي حركة تأسست في نهاية السبعينات من القرن الماضي.
الجهاد الإسلامي كانت كريه فان دي زاني 70.
حركة تعتمد منهج قاومة وبرنامج المقاومة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
C'est un mouvement islamique qui a comme une voix, c'est la voix de résistance, de la résistance.
فلسطين كلها لنا. فلسطين كلها لنا.
Toute la Palestine c'est à nous. Toute la Palestine.
Là, tout le monde se rassied.
Alors, c'est le rabbin d'Ovlior, une des autorités spirituelles des colons, raciste notoire. Il y a même une procédure juridique contre lui, à savoir un goy qui a occupé une terre qui nous appartient, et cette terre nous a été donnée par Dieu. On a le devoir de les tuer.
Le devoir de les tuer?
Oui.
الإسرائيليين هم يعلمون جيدا أنهم هم جاءوا إلى فلسطين واحتلوا فلسطين.
Bien sûr, cet ennemi-là, ils sont venus, ils ont chassé les vrais habitants de leur village et de leur ville.
هذه يعني حتمية تاريخية لا يمكن أن تتغير.
Ils ont confisqué les terres, ils ont pris notre terre par force. Et nous, c'est bien clair, il faut libérer la Palestine du Jourdain à la mer.
De même ici, nous devons savoir que le Jourdain est la frontière d'Israël.
Le Jourdain. فلسطين بالنسبة لي هي أرضي بلدي فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.
Pour moi la Palestine c'est mon patrie, c'est mon pays, c'est du Jourdain à la mer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Van Til. Palestine, quel état? Qui est terroriste?
Flight number 2, arriving from...
On arrive au 7e étage de ce building, à Gaza, et on cherche un bureau, et on voit un panneau qui nous indique Adam Center for Dialogue of Civilizations. Et on se dit, tiens... Dialogue des civilisations, ça, c'est peut-être là qu'on va. Eh bien, vous allez voir que pas du tout. Civilisation, c'est pas sûr. Dialogue, pas du tout. Étonnant, étonnant, la facilité avec laquelle nous rencontrons, nous allons rencontrer des porte-parole, des fractions armées qui opèrent dans la bande de Gaza. Étonnant cette facilité, comme si on nous attendait, comme si n'importe quel journaliste de passage, n'importe quel média pouvait rencontrer ceux qui sont des combattants, qui sont armés, qui s'entraînent et qui n'ont à les entendre qu'un seul but, c'est étendre toute la Palestine, l'État palestinien à l'ensemble du territoire entre le Jourdain et la mer, qui sont des propos qu'on a entendus, vous vous souvenez, qu'on entend bien souvent en Israël, mais qu'on a entendu dans nos émissions jeudi et vendredi avec ces rabbins radicaux dans les colonies, dans une colonie, celle de Migron, qui disait à quel point Israël ne pouvait exister que du Jourdain à la mer, et que c'était écrit dans les Écritures, et que c'était la vérité de tout temps, et qu'il était du devoir de tout juif d'accomplir cette promesse. Là, on a l'équivalent du côté palestinien, ces combattants qui ont exactement, presque, vous avez entendu, quasiment les mêmes mots. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de dire, eh bien, on va renvoyer ces gens dos à dos et face à face, il y a des actes terroristes de chaque côté et on va déplorer une spirale de la violence. Bien sûr qu'il faut déplorer cette spirale de la violence, les extrémismes et les terrorismes et le terrorisme de chaque côté. Qui est terroriste, c'est de chaque côté qu'il y a de la terreur. Sauf qu'évidemment, le rapport de force militaire est inégal. Il y a indéniablement un dominant, un dominé, un fort et un faible dans cette histoire. Un fort et un faible, ce que les stratèges appellent la guerre asymétrique. Le faible, dans cette situation, a recours, il n'a pas d'autre recours que la guérilla, que l'attentat, que le recours à la stratégie du chaos et à des actes considérés comme terroristes. Je dis bien considérés comme terroristes parce que ces actes peuvent devenir des actes de résistance aux yeux de l'histoire si le faible finit par l'emporter. C'est arrivé fréquemment dans l'histoire. On peut aller voir notre histoire de France, nos résistants si héroïques qui nous éclairent toujours aujourd'hui, eh bien, étaient considérés par quelqu'un comme le maréchal Pétain, comme d'épouvantables terroristes. Et on rencontre ça très souvent dans l'histoire. Toutes ces années dernières et encore aujourd'hui, un nombre de pays s'allient pour lutter contre le terrorisme, en oubliant qu'eux-mêmes peuvent, aux yeux du tribunal de l'histoire, être considérés comme ayant conduit des politiques ou ayant fait des actes, des guerres à travers le monde de nature tout à fait terroriste. Je pense évidemment à la politique des États-Unis, au Vietnam par exemple. On pourra citer, on le fait souvent, la conduite des autorités françaises pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, avec la torture, etc. Donc la question se pose toujours de qui est terroriste. On est à Gaza, hier on était à Rafah, aujourd'hui on est à Gaza. Vous allez voir avec quelle facilité on rencontre ces différentes unités combattantes comme si tout nous attendait, comme s'il y avait un service de communication qui nous permettait de rencontrer, d'écouter ce qu'il faut bien appeler de la langue de bois. Il faut avoir l'oreille fine pour distinguer la signification de tout ça. J'ai l'impression qu'on va vous faire entendre un peu un disque rayé et on se demandera... Qui profite de ce discours ? Est-ce que c'est pas là pour le gouvernement, Madame Benamou, le gouvernement israélien, un ennemi idéal ? C'est la question qu'on peut se poser, une des questions qui nous accompagne jusqu'à 16 heures dans la base, si j'y suis, Palestine. Quel État, qui est terroriste ?
Hey. اللغز فعلا يقترب لشاطئي ناقلة جنودي وتحمل مقاتلين لتعبر حدودي القافلة ترفع رايتي ورايتي وقودي يقود حقي قافلة وقود حقي مقاومة كاسر القيود فش مقارنة لصمودي فش معارضة عمودي هي مقامرة حقوقي فلتسقط محاصرة الأرض محاصرة البحر مناصرة الحق وصلها صوتي يلي بتصدر الموت بستورد الحياة بدك تقتل الصوت فبتحشد القوات برعبك الحق بعرف تعرف الفرق بشرف بضرب الرعد اعترف بلمسك برق الحرف هزف عرش المسمى بالكيان من قول صهيونية عدوة الإنسان أنا غزة في قلبي وقلبي ميدان عندي مرسى لقلبي فقلبي قبطان تقدم أهلا وحل سهلا وعذرا عدو عهرا يمارس الطغيان حرا بعيش حرا أعيش حرا أو أموت وقوفا كالقبطان
وسيمة ماك بي
سلمي أبا البحر
كان ليف دحي
Voici à quoi ressemble un atelier de fabrication de roquettes dans la bande de Gaza.
InfoLife TV.
Celui-ci appartient au CRP, les comités de résistance populaire.
29 juin 2008.
Une organisation radicale palestinienne qui regroupe d'anciens membres des branches armées du Fatah, du Hamas et du djihad islamique. Sur ces images, des militants sont filmés en train d'assembler méthodiquement chaque élément de la roquette et d'y ajouter une substance explosive. L'engin est ensuite relié à un détonateur qui sera actionné au moment du tir. Il ne reste alors plus qu'à visser la tête du missile qui explosera au moment de l'impact.
Évidemment, quand vous êtes journaliste, vous êtes une sorte de, allez, il faut le dire, de fierté professionnelle à ramener ce genre, à rapporter, on est des reporters, ce genre d'images, ce genre de choses qui semblent secrètes, cachées. À Gaza, c'est pas tellement caché. Je me souviens d'une interview il y a bien bien longtemps avec le cher Yassine. Vous vous souvenez, c'est ce leader charismatique du Hamas qui a été abattu depuis. Il parlait à n'importe quel journaliste de passage. C'était très facile. Si bien que pour les observateurs un peu aguerris et qui souvent apportent des preuves et des arguments, le mouvement du Hamas, qui est issu de l'Organisation des Frères Musulmans, qui fut dans les années 70 et au début des années 80, aidé par les services de renseignement israéliens pour lutter contre l'OLP, oui, aujourd'hui, est au pouvoir à Gaza. Un pouvoir qui n'est plus aussi hégémonique, qui commence à lasser un petit peu la population. On le disait hier, comment les Gazaouis, ont l'air de marcher dans cette histoire, mais de plus en plus d'une façon qui semble, il faudrait faire un travail plus poussé, plus précis et plus en profondeur, mais qui semble, c'est intuitif, plutôt opportuniste qu'autre chose. Mais il y a eu indéniablement ces soutiens des services de renseignement israéliens pendant des années pour soutenir et pousser cette tendance, évidemment pour installer la division dans le front de la résistance palestinienne. D'où probablement, peut-être bien, la facilité que nous avons à nous trouver où nous sommes face aux responsables du comité de résistance populaire. Je vous précise que vous n'êtes pas en train d'écouter Rire et Chansons. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
يعني نحن تنظيم يسمى لجان المقاومة وذراعه العسكري ألوية الناصر صلاح الدين.
On est une faction qui s'appelle faction de résistance et la branche armée c'est le comité de résistance populaire. On appelle صلاح الدين.
بدء لجان المقاومة تفاعلت مع انطلاق الانتفاضة الأخيرة انتفاضة الأقصى المباركة.
Ça a été créé pendant la deuxième intifada qu'on appelle l'intifada de l'Aqsa.
العسكري ألوية الناصر صلاح الدين خرجت من رحم معاناة الشعب الفلسطيني.
Ça a été créé au sein de la souffrance du peuple palestinien et surtout des concessions des corrompus politiques.
ومن تاريخ كان حافلا ببعض المفاسد السياسية والإرهاصات السياسية التي أفرزت ما بعد أوسلو
وكان commencé avec Oslo
ثقلا كبيرا على
et qui a cédé la résistance et la voie de la résistance et là on était créé pour reprendre cette voie là et avoir la résistance comme notre chemin.
وهو يحمل الفكر الإسلامي.
Nos idées sont basées sur la voie islamique, la bonne voie islamique, sur l'islam. Et notre voie, c'est aussi le jihad et libérer la Palestine. D'occupants qui a pris nos terres par force et qui est toujours occupé nos terres.
C'est-à-dire la résistance armée.
Bien sûr, les comités de résistance populaire ils faisaient des exploits inédits dans leur opération. Ça a commencé par l'opération qui a été faite contre le terminal Rafah et puis le bombardement de Merkava. Là, c'est la légende israélienne. Ils sont fiers de ce char-là et pour eux, c'est le char le plus puissant dans le monde. Donc nous, en tant que comité de résistance populaire, on a fait disparaître cette légende-là et le Merkava a été battable alors qu'il était réputé invincible.
Vous revendiquez
l'enlèvement de Gilad Shalit.
Bien sûr, on a revendiqué parce que les comités de résistance populaire ont participé à cette opération qu'on appelait le mirage disparu. On a sacrifié deux martyrs, Hamed Rantisi et Hamad Ferouana, et ces deux-là, ils sont morts dans la bataille quand ils étaient en train d'enlever le soldat Shalit.
Voilà les propos que peuvent tenir. Peut tenir le responsable ou le porte-parole de ce comité de résistance populaire, encore une fois, j'y insiste, très facilement accessible, même si effectivement la vie de ces hommes est en danger. Très souvent, l'armée israélienne fait des opérations contre eux et les exécute. C'est pas du tout rare, c'est à l'intérieur de cette guerre de basse intensité, comme on dit, mais ils prennent des risques. Ils sont pas du tout. Leur protection est très très limitée. Ils sont obligés de déménager souvent, de se déplacer souvent, même si on peut tout à fait imaginer que l'armée israélienne a tout à fait les moyens de suivre leur déplacement au centimètre près. On continue cet entretien.
Notre point de vue, c'est que cet ennemi sioniste, ils sont venus de partout, de quatre coins du monde. Ils sont venus ici pour prendre les racines ici. Notre rôle, c'est les déraciner et faire retourner nos frères qui étaient chassés de leur village, de leur ville.
Mais les Israéliens, vous en faites quoi alors là-dedans ?
Bien sûr, cet ennemi-là, ils sont venus, ils ont chassé les vrais habitants de leur village et de leur ville. Ils ont confisqué les terres, ils ont pris notre terre par force. Et nous, c'est bien clair. Et il faut libérer la Palestine du Jourdain à la mer.
Quand vous dites libérer notre terre, c'est pas seulement libérer Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, c'est libérer toute la Palestine, mais les Israéliens, ils sont là. Qu'est-ce que vous en faites pour l'instant ? Ils sont là. Vous les chassez comment ? Les renvoyez où ? En Europe ?
Et bien sûr, tout le monde sait que cet ennemi sioniste, ils sont venus de quatre coins du monde. Et pour le moment, jusqu'à maintenant, ces gens-là, ils ont une double nationalité. Ils ont d'actes de naissance qui sont nés en Russie, à Malte et n'importe où dans d'autres endroits dans le monde. Et donc, c'est bien clair, ces gens-là, ils doivent retourner où ils étaient, parce que nous, on considère la Palestine, toute la Palestine, comme une terre islamique, un waqf islamique. Et personne ne doit céder un bout de terrain de cette terre-là. Donc ces gens-là qui reviennent chez eux.
Vous, là, vous vivez dangereusement parce que vous êtes dans ce local. Les services israéliens savent parfaitement où vous êtes et vous pouvez à tout moment avoir affaire à eux.
Nous, en tant que comité des résistances populaires, quand on est devenu membre de cette faction, on savait très bien que notre sort, ça va finir avec un assassinat ou un bombardement ou un attaque. Mais ça, c'est un sort de tous les Palestiniens qui vivent ici. Nous, notre idée, c'est bien clair, c'est renforcer l'idée de djihad en Palestine et surtout libérer de la Palestine. Des gens qui sont venus de partout dans le monde, ici en Palestine, ils ont colonisé notre terre.
Moi, j'ai une dernière question. Bon, vous êtes le porte-parole du comité de résistance populaire, ici, à Gaza. Vous revendiquez un certain nombre d'actions, dont les tirs de roquettes sur le sud d'Israël, dont l'enlèvement de Gilad Shalit, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche d'Abou Mazen de faire reconnaître par les Nations Unies
l'État palestinien.
Notre position était bien claire. La déclaration d'avoir un État, c'est une demande qui, ou bien une initiative qui est née morte. Parce que c'était né d'Oslo et l'accord Oslo, le processus d'Oslo, le processus de la paix est déjà mort. Donc on ne peut pas avoir un État juste avec de l'encre sur du papier. On ne peut pas avoir un État concret avec des résolutions internationales. C'est un peu absurde. Comment on peut nous offrir un État juste avec de l'encre sur du papier des Nations Unies ou ce qu'on appelle des Nations Unies juste comme ça, c'est un pays virtuel, que ça n'existe pas. C'est bien, notre position est bien claire, on ne peut pas libérer un pays sans la résistance. Pour libérer un pays et avoir nos droits, c'est qu'avec la résistance. Cette résistance-là qui a redonné plus d'ampleur à la question palestinienne. C'est avec cette résistance-là qu'on a pu libérer la bande de Gaza.
Gaza ni la Cisjordanie ne constituent un État palestinien. Ça n'existe pas.
Ce n'est pas durable. Les Arabes n'ont jamais eu de souveraineté ici. Il n'y a pas d'État palestinien. Si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, le Jourdain est la frontière d'Israël.
Le Jourdain, c'est-à-dire que pour vous, les frontières de 67 ne sont pas acceptables. C'est le Jourdain, la frontière d'Israël.
Il n'y a pas de frontière de 67. C'est Abou Mazen qui invente cela. Il y a les frontières d'histoire.
Et pour le rabbin Zuckerman, les frontières de l'histoire sont les frontières de la Bible, sont les frontières de ce territoire donné aux Juifs par Dieu et rien d'autre. On trouve à peu près la même résolution, la même détermination dans les propos de ces combattants palestiniens qui, il faut bien le dire, n'ont plus la cote qu'ils avaient autrefois. Si on se réfère à ceux qui, à travers le monde, défendent la cause palestinienne, ce soutien n'est plus ce qu'il était. On est loin de la solidarité tiers-mondiste d'autrefois. Il y a eu des couleuvres à avaler. Le Hamas, couleuvre pas très facile à avaler quand même. La deuxième intifada, avec les attentats suicides. Tout ça crée de la distance et crée du doute. Bien sûr que le soutien en principe et la solidarité est toujours là, mais on voit beaucoup moins de keffiyeh dans les collèges et dans les manifestations chez nous. C'est pas sans écho avec ce qu'on sent quand on est à Gaza. On va le voir d'ici à la fin de cette émission, il y a une jeunesse qui doute, qui se pose des questions et qui comprend qu'il va falloir trouver autre chose. Non pas qu'il ne faut pas se coucher, il ne faut pas collaborer, il ne faut pas se laisser faire. Il y a une cause qui est juste, qui est légitime, mais c'est peut-être la stratégie qui est mise en cause. C'est même certainement la stratégie qui est mise en cause. N'empêche que 63 ans après la naissance d'Israël, la question est intacte. La question est une terre pour deux peuples. Et la solution n'est toujours pas trouvée malgré les efforts, les crimes, les atrocités, les violences et le terrorisme qui s'est installé dans ce petit bout du monde, dans ce petit point, cette tête d'épingle sur cette planète. On a rencontré ces combattants. En voici d'autres, ceux du djihad islamique, qui ont quelques nuances qu'il faut deviner avec une oreille très fine.
يعني هو حركة الجهاد الإسلامي حركة تأسست في نهاية السبعينات من القرن الماضي هي حركة إسلامية.
الجهاد الإسلامي كانت كريه في عام 1970.
تعتمد منهج المقاومة وبرنامج المقاومة.
C'est un mouvement islamique qui a comme une voie, c'est la voie de résistance, de la résistance.
فلسطين بالنسبة لي هي أرضي بلدي فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.
Pour moi la Palestine c'est mon patrie c'est mon pays c'est du Jourdain à la mer.
C'est votre but établir un État palestinien islamique du Jourdain à la mer.
لا لا هو إحنا لا نتحدث عن إقامة دولة إسلامية نحن.
On ne parle pas d'un État islamique on parle d'un État palestinien une fois on a cet État là.
بعد أن تتحرر فلسطين.
Après il y aura des élections il y aura une procédure démocratique pour choisir ce qu'on veut.
Mais votre État l'État palestinien dont vous rêvez pour lequel vous vous battez on est bien d'accord qu'il va du Jourdain à la mer.
فلسطين كلها لنا فلسطين كلها لنا.
C'est, toute la Palestine, c'est à nous. Toute la Palestine.
Mais dans votre combat, dans votre but, qu'est-ce que vous faites de l'État d'Israël qui existe actuellement ?
لا هو احنا من وجهة نظرنا انه هناك يهود كانوا موجودين في فلسطين يعني هم سكان اصليين في فلسطين.
Notre point de vue, les juifs qui vivaient dans la Palestine, c'est les vrais habitants de la Palestine, c'est des Palestiniens.
المشكلة
pour nous, on n'a pas de problème avec ces gens-là, ils vivent avec nous dans un même état.
مناطق مختلفة. بعضهم جاء من فرنسا، بعضهم جاء من بولندا، بعضهم جاء حتى من دول عربية.
Mais on parle des juifs qui sont venus d'étrangers, qui sont venus de la France, de la Pologne.
من حيث اتوا لا
يعني même des pays arabes, ces gens-là ils doivent rentrer chez eux.
Donc vous envisagez l'exode et le transfert des juifs d'Israël à l'exception de ceux qui étaient là auparavant.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Oh, que c'est chaud. Oh, que c'est chaud, mon Dieu, que c'est chaud. Alors, dans votre combat, quelles sont les actions que vous revendiquez ? Est-ce que vous revendiquez les tirs de roquettes sur le sud d'Israël, par exemple ?
Bien sûr, on revendique, mais ces actions-là, c'était juste une autodéfense. C'est une des réactions aux agressions israéliennes.
يعني كل العمليات التي قمنا بها كانت تستهدف جنود إسرائيليين. في بعض الحالات القليلة كان هناك.
Toutes nos actions militaires étaient toujours visées des soldats israéliens.
بعض المدنيين.
Parfois il y a eu quelques victimes civiles parce qu'ils étaient avec ces soldats israéliens.
Donc pour vous le combat il est militaire.
بالتأكيد نحن نريد أن ندافع عن أنفسنا.
Bien sûr. Mais en tout cas nous c'est toujours de l'autodéfense.
على الأقل يتدخل ويعطي.
C'est le comité international veut intervenir et donner des solutions justes. On peut les accepter mais malheureusement personne ne veut nous aider, personne ne voulait nous donner ces solutions justes pour que nous on accepte.
Mais vous dites que vous voulez négocier, c'est contradictoire parce que vous voulez d'abord que ceux avec qui vous pourriez négocier soient partis. Vous dites qu'ils partent et après vous dites négocier. Je comprends pas.
لا هو لا يوجد تناقض يعني ليس تناقضا انا اقول لك ما هو
il y a pas de contradiction parce que moi je parle de moi-même. Nous en tant que djihad islamique on représente pas tout le peuple palestinien. On est une voix du peuple palestinien.
انا برنامجي كل فلسطين.
On est une faction de plusieurs factions dans le peuple palestinien.
Vous êtes sur une position de principe hein, qui est tout mais si les Israéliens viennent négocier avec des éléments solides, vous acceptez la négociation. C'est plus une position de principe qu'un objectif politique.
لا شوف احنا نتحدث في السياسة. طالما أننا نتحدث في السياسة.
Déjà là on parle de politique. La politique c'est tu donnes et tu prends. C'est des négociations, c'est un dialogue.
على مدار السنوات الطوال من المفاوضات.
Mais là ça fait avec des longues années qu'Abou Mazen il a fait des négociations.
العالم لم يقدم لأبو مازن.
Ça n'aboutit à rien du tout. Il ne monte rien, n'a rien donné à Abou Mazen.
بجد وما يقوم به أبو مازن.
Comment moi je peux être convaincu de ce principe et adopter ce principe?
Merci. بدي أضيف مسألة يعني هناك يعني إحنا نؤكد إنه إحنا حركة فلسطينية.
J'insiste que nous c'est un mouvement palestinien. On n'a pas des extensions.
المجموعات الإرهابية في العالم تحمل اسم الجهاد.
Il y a des groupes terroristes à l'étranger qui utilisent le mot jihad. Mais nous, on ne fait pas partie de ces gens-là.
Voilà, vous voulez surtout pas être assimilé au jihad mondial mené par des organisations comme Al-Qaïda et d'autres.
لا 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 نقبل ما يفعلون.
Non, on n'accepte pas ce qu'ils sont en train de le faire.
أنا درست في أوروبا وعندما انتهيت من دراسة كان لي أصدقاء في أوروبا.
Bien sûr, on n'accepte pas ce qu'ils font. Moi, j'ai fait mes études en Europe, j'ai des amis européens, je suis revenu ici, j'ai gardé le contact.
مع الناس ومع الأصدقاء ومع ال.
Un chrétien, c'est un frère. Un juif, c'est un frère. S'il fait pas partie de l'occupant.
يرتكب من أعمال إرهابية. أنا أتعامل مع المسيحي كأخي ومع اليهودي طالما إنه.
Et donc, nous, on n'a pas de problème avec personne.
Vous êtes des terroristes modérés.
Non, non, moi je ne suis pas terroriste. C'est Netanyahu qui est le terroriste.
C'est impressionnant parce qu'il y a l'orateur là qui est en train de s'installer, il a devant lui, ils sont en train de régler les derniers micros. Et c'est pas une brochette de micros qu'il y a, mais il y en a une trentaine de micros.
Oui, trentaine de micros parce que voilà, c'est toutes les chaînes internationales, arabes, il y a des chaînes iraniennes aussi, TV Press.
Oui, parce que l'Iran est un des financiers du Hamas aussi.
Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a le Manar aussi.
Le Manar ? Non.
Le Manar, c'est le Hezbollah.
Oui, c'est ça, c'est la chaîne du Hezbollah au Liban. Et maintenant, pour l'ouverture, c'est la petite prière, c'est ça ?
Oui, c'est une des quelques versets de Coran. On commence par les versets de Coran.
Toujours à Gaza, là, c'est une conférence de presse donnée par le Hamas, en grande pompe, avec les officiels, avec les dignitaires, avec les médias en rang d'oignon. Suite à l'arrestation d'un député du Hamas à Jérusalem, dans les locaux de la Croix-Rouge, le porte-parole du Hamas nous parle.
Mouchir al-Masri, al-Mutahaddith, bism kutlit Hamas al-Barlamaniya.
Mouchir al-Masri, le porte-parole du mouvement Hamas dans le Parlement palestinien.
Le porte-parole du Hamas à Gaza. Quelle est votre position, la position du Hamas, par rapport à la démarche de Mahmoud Abbas, qui est allé aux Nations Unies pour essayer d'obtenir la reconnaissance de l'État palestinien ?
Nous, on est d'accord d'avoir un État palestinien sur n'importe quel pas sur la Palestine, mais en même temps, il ne faut pas reconnaître Israël et en même temps, il ne faut pas céder les droits des Palestiniens.
Vous dites il ne faut pas reconnaître Israël, hein, si la traduction est bonne. Vous dites il ne faut pas reconnaître Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là ? Quel est le but du Hamas ? Est-ce qu'on va vers une solution à deux États ou à un État ?
Nous, on croit
que
le Hamas, on a toujours dit que le Hamas accepte d'avoir un État sur les frontières de
67.
En gardant toujours les autres droits des Palestiniens, surtout le droit de retour.
Et
ce droit a été garanti par les résolutions des Nations Unies, aux résolutions internationales, de ces réfugiés doivent rentrer chez eux.
Donc vous ne remettez pas en cause l'État d'Israël, que l'État d'Israël reste dans les frontières de 1967 et dans ces frontières-là, à côté, qu'il existe, que soit créé un État palestinien.
Avoir un État palestinien sur les frontières de 67, c'est un de nos droits. Mais il faut pas oublier les autres droits ou céder les autres droits, surtout le droit de réfugiés, le retour des réfugiés. Et à ce moment-là, si on va avoir un État sur les frontières de 67, là, on peut faire une trêve de longue durée avec l'occupation israélienne. Bien sûr, c'est bien clair que même avoir cet État-là, c'est refusé par les Américains et les Israéliens. L'initiative de Sarkozy d'avoir un membre observateur pour les Palestiniens, ça a été aussi refusé. Donc c'est bien clair que les solutions sont refusées.
Voilà ce que le Hamas peut nous dire ce jour-là. Gaza, on peut rencontrer les porte-paroles du djihad islamique ou du comité de résistance populaire, qui sont des radicaux, qui représentent des bras armés du Hamas, c'est comme ça qu'ils se présentent, et pour qui les choses sont très très simples, la Palestine c'est tout le territoire, du Jourdain à la mer, et ceux qui occupent actuellement ce qu'on appelle Israël, il faut s'en débarrasser. Donc là, on est chez des gens extrêmement radicaux, qui ont un discours qui correspond exactement à ce que doit espérer l'actuel gouvernement israélien. Voilà, alors ça c'est la question qu'on pose à Benjamin Barthes, qu'on retrouve, le journaliste Benjamin Barthes, qui est l'auteur de Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien. Le mirage palestinien, c'est Ramallah, bien évidemment. On est très loin de Ramallah, hein. Vous entendez ses propos, les propos du Hamas, on est très très loin de Ramallah. Et voilà ce que Benjamin Barthes peut dire sur la position actuelle des autorités du Hamas.
Oui, bien sûr. Alors c'est vraiment l'ennemi parfait. C'est voilà. L'ennemi parfait qui déclare ce qu'il faut déclarer au moment opportun et qui simplifie avec un timing et un à-propos remarquables les besoins de communication de la machine gouvernementale israélienne. Donc évidemment, c'est de bonne guerre. Dans la guerre des mots, c'est inévitablement une munition dont les porte-parole israéliens ne se privent jamais. Mais... ce qui est important, je pense, et alors c'est dans tout les remarques relativement pessimistes que j'ai formulées ici, ce qui est un facteur intéressant, je pense, c'est que ces gens-là existent certes, mais je pense qu'il y a quelque chose d'informulé actuellement chez les Palestiniens, mais qui est important, c'est le deuil de la lutte armée. Je m'avance peut-être un peu, mais j'ai le sentiment que l'impasse de la seconde intifada, cette militarisation qui a été un désastre pour les Palestiniens, qui a ensanglanté, endeuillé des milliers de foyers palestiniens et qui a fait régresser la cause palestinienne en termes de réputation et d'image dans le monde entier.
Et de soutien, oui.
Et de soutien, effectivement. Je pense que les Palestiniens, même s'ils ne le disent pas, ont compris qu'il y a une impasse. Ont compris que ce chemin leur était très majoritairement préjudiciable, que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas rééditer. Donc c'est évident que les groupes armés seront toujours là, qu'ils vont toujours utiliser les mêmes rengaines, etc. Mais j'ai l'impression que la population est beaucoup plus sceptique. Dans le désenchantement généralisé, il y a une réévaluation critique très salutaire de la lutte armée. Et c'est quelque chose auquel les Palestiniens s'étaient jamais véritablement livrés, quoi.
D'où le soutien, ça nous ramène à notre point de départ, d'où le soutien à la démarche de Mahmoud Abbas aux Nations Unies,
Bien sûr, parce qu'il y a un tel désarroi.
Voilà, il y a peut-être une issue par là, essayons ça.
Voilà, il y a un tel désarroi.
On a tout essayé, essayons ça maintenant.
Voilà, que les gens se disent, bon, il n'y a pas de mal à essayer. Ça ne sera peut-être pas la botte secrète, mais il n'y a pas de mal à essayer. Mais ce qui est également, je pense, important de souligner, c'est que même si la démarche de Mahmoud Abbas peut être porteuse de résultats et peut être quelque chose de positif, je pense qu'à un moment ou un autre, les Palestiniens ne pourront pas faire l'économie d'un nouveau mouvement de libération. Et ce nouveau mouvement de libération, il reste à imaginer, à conceptualiser et à définir. Il faut espérer qu'il ne sera pas militarisé. Actuellement, il y a des tentatives de développement d'un mouvement de protestation populaire et non violent, mais il reste relativement anecdotique et relativement quelque chose de l'ordre du pittoresque, plus que de la véritable stratégie. La stratégie, pour l'instant, le mouvement de masse, il n'existe pas, et on se dit qu'il n'y aura pas de libération. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'État ces derniers temps. On parle de l'État que le Premier ministre Salam Fayyad veut mettre sur pied. On parle de l'État dont Mahmoud Abbas veut demander la reconnaissance devant l'Organisation des Nations Unies. Mais ce dont il s'agit en Palestine, avant de parler d'État, il faut parler de libération. Ça reste un conflit de libération, enfin un conflit colonial, et donc de l'autre côté un conflit de libération nationale. Et la stratégie de libération, elle ne peut pas se résumer à un discours aussi beau soit-il au podium des Nations Unies.
Alors on va finir ce voyage en Cisjordanie, à Ramallah et maintenant à Gaza, avec les jeunes de Gaza, avec les jeunes rappeurs de Gaza, je le disais en commençant, le printemps arabe est passé par là, est passé par Gaza. Il s'appelle Gaza Youth Breaks Out Collectif. Ils font du rap et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, mais très actifs et très engagés à leur façon dans la lutte qui est la leur, celle de la résistance palestinienne.
Bah, les amis, là, on est avec deux amis rappeurs. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle Palestinian Rappers, ou bien PR. C'est un groupe de rappeurs à Gaza.
Ouais, alors si on pense Gaza, on pense intifada, on pense catastrophe, on pense guerre, on pense malheur, on pense souffrance, et on a bien raison, parce que c'est à peu près ça, l'image de Gaza. Mais enfin, il y a aussi cette image-là. Il y a aussi l'image d'un endroit très, très confortable. Et là, on est avec ces deux rappeurs qui font partie d'un groupe qui s'appelle GYBO, Gaza Youth Breaks Out.
C'est-à-dire les jeunes de Gaza qui veulent briser le silence.
Qui veulent briser le silence et qui se sont rendus fameux en publiant un manifeste, le manifeste de la jeunesse de Gaza, et qui commence très fort. Mère de Hamas, mère d'Israël, mère d'Au Fatah, mère de l'ONU et à l'UNRWA, mère de l'Amérique. Voilà, c'était quand même assez gonflé.
Le manifesto est عباره عن خطاب موجه للعالم كله بيحكي عن قضيه الشباب اللي عايش في فلسطين وبالاخص في قطاع غزه. انا كنت احد الاعضاء المشاركين في كتابه المانيفيستو.
Le manifeste est en fait un discours de la jeunesse palestinienne et surtout la jeunesse de Gaza qui parle au monde entier.
كل اللي كان انه احنا فك حماس لانه ما بدهاش مثلا
on a dit فك حماس parce que c'est ils font partie de la division فك فتح parce que si il y a la division
الولايات المتحده لانه سياستها ضد
فك les États-Unis parce que c'est leur politique envers le Proche-Orient et surtout pour la Palestine qui était anti-palestinien فك Israël pareil et puis il dit فك l'UNRWA parce qu'ils ont un agenda qui n'a rien à voir avec la société palestinienne.
في ناس كثير عايشين في غزه نفسهم يحكوا لا مثلا.
Il y en a beaucoup de monde à Gaza qui veulent s'exprimer, qui veulent dire non, qui veulent par exemple, là on est tous sortis pour dire non à la division. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ont toujours été réprimés. Il y a toujours une voix, une force qui essaye de les réprimer. Moi personnellement, j'ai pas peur. Si j'avais peur, je ferais pas de rap, je crie pas, je fais rien du tout. Mais je vivrai pas à Gaza. Mais on a toujours vu la mort avec nos propres yeux, donc on n'a plus peur de personne.
Parle-moi un peu des paroles de tes chansons de rap.
90% des paroles de tes chansons de rap.
90% de nos paroles dans nos chansons, c'est contre l'occupation.
On
parle d'autres choses, on parle aussi des problèmes des femmes, des problèmes des enfants, des problèmes de la jeunesse. Mais malheureusement, parce qu'il y a toujours l'occupation, donc l'aspect de l'occupation domine sur nos paroles beaucoup plus qu'autre chose.
Tu parles de l'occupation. Est-ce que tu vas en Cisjordanie? Est-ce que tu vas à Ramallah? Est-ce que tu te balades en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans les territoires? Ou bien tu es confiné ici, à Gaza?
Ni moi, ni personne d'autre, il peut aller en Cisjordanie ou bien à Jérusalem, ou se rendre à Jérusalem. Pour avoir, il y a la possibilité d'y aller, il faut avoir des pistons des prophètes.
Le piston du prophète.
C'est pour dire que c'est impossible.
Merci au rappeur du collectif Gaza Youth Breaks Out. C'était Qui est terroriste, dernière étape de notre série Palestine. Quel état ? Une suite de reportages avec Guy Van Til. Merci à Bilal, à Benjamin Barthes, à Dominique Vidal, Michel Warchavski, Liad Semel, Anis et Nathalie Gandil, Grégory Philippe, Charles Anderlin, Adèle Samara, Azem Kawasmi, Ahmad Wahid, Michael Blum, Rabbi Zuckerman, Yehuda Shaul, Gadi Al-Ghazi, Rami Rabaya, Avraham Bourg, Gideon Lévy, Yvan Segré, Anad Gutman, Hassan Balaoui et Pierre Charpentier, tous ceux que nous oublions. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. Bien évidemment, la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos et Bertrand Chomton et Franck Adérer qui ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Il est 10h. Pierre est assis dans son fauteuil, il regarde par la fenêtre. On sonne, il fait rouler son fauteuil pour aller ouvrir. Approchons-nous un peu pour écouter ce qui se passe dans sa tête. Quand on ne peut plus se déplacer seul, c'est bien de savoir que quelqu'un vient vous chercher pour aller prendre l'air.
Auxiliaire de vie sociale, c'est l'un des 18 métiers que 2 millions de professionnels peuvent exercer à votre domicile. Les services à la personne, ça vous change la vie. Pour tout savoir, appelez le 3211, prix d'un appel local depuis un poste fixe. C'était un message de l'Agence nationale des services à la personne et des ministères chargés de l'économie et de l'emploi.
Être le premier réseau social d'assurance, ça permet d'offrir à ses assurés une épargne solide, sûre, disponible et performante. Une épargne zéro tracas, zéro blabla et qui rapporte. Alors, qui c'est les clients ?
C'est nous !
Seize heures sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
L'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts est sur le point d'être acté. Martine Aubry et Cécile Duflot se sont rencontrées cet après-midi pour le valider. Le texte fait une trentaine de pages. À l'intérieur, les accords, mais aussi les désaccords sur notamment l'EPR de Flamanville et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Le document doit encore être voté en fin de journée par le bureau national du PS. Pour le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, ce sera ce week-end. Les monarchies arabes du Golfe refusent aujourd'hui la tenue d'un sommet des pays arabes. Il est réclamé par la Syrie depuis dimanche suite à la crise qui secoue le pays et suite aussi à la décision de la Ligue arabe de suspendre Damas de cette organisation. Pour le Conseil de coopération du Golfe, un tel sommet en ces circonstances est inutile. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui que Damas ne paie plus Total pour sa production de pétrole. Un porte-parole du géant pétrolier confirme aujourd'hui une information donnée par le Financial Times. On ne sait pas toutefois quand les paiements ont cessé. De son côté, la Turquie a, elle, décidé d'arrêter des explorations de pétrole menées avec la Syrie. La Turquie qui menace aussi Damas d'arrêter de lui fournir de l'électricité si le climat actuel persiste entre les deux pays. La France félicite aujourd'hui le parti islamiste Ennahda pour sa victoire aux élections du 23 octobre en Tunisie. Les résultats définitifs ont été publiés hier. Nous leur adressons nos félicitations, a déclaré Bernard Valero, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'à tous les élus de ce premier scrutin démocratique. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la création d'une taxe sur les loyers abusifs. Cette taxe concernera les logements de moins de 14 mètres carrés et dont le loyer dépasse de 30 à 45 euros par mètre carré. Elle rentrera en vigueur le 1er janvier prochain. On a une idée précise aujourd'hui du coût des inondations qui ont touché la semaine dernière le sud-est de la France. D'après les assureurs, le montant s'élève entre 600 et 800 millions d'euros. Le procureur de Nantes confirme cet après-midi l'information donnée ce matin par Ouest France sur la mort d'un transsexuel israélien de 27 ans. Il était venu à Nantes le 20 octobre dernier pour une injection de silicone dans les fesses. Une intervention destinée à féminiser sa silhouette mais qui est interdite en France. Elle a été pratiquée cette intervention chez un particulier. Le particulier en question a été mis en examen pour notamment pratique illégale de la médecine. 30 policiers roumains en uniforme vont être prochainement intégrés à des patrouilles dans le Grand Paris. Le préfet de police de Paris, Michel Godin, a expliqué aujourd'hui qu'ils allaient participer avec des policiers français à des patrouilles dans les endroits où se trouvent les ressortissants roumains. Une étude policière publiée cet été avait relevé une augmentation de la délinquance générée par les ressortissants roumains dans Paris et sa banlieue. Selon la préfecture de police de Paris, 9800 roumains ont été interpellés depuis le début de l'année. Ces rapports sont attendus d'ici la semaine prochaine. Golgotha Picnic sera bien présenté demain à Toulouse. La justice a rejeté aujourd'hui la demande d'interdiction du spectacle déposée par des catholiques. La Griffe, une organisation proche des catholiques traditionalistes, juge blasphématoire cette pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Birdie Nam Nam, Quadricolore, et la canaille.
Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cage.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Carrefour de l'Odéon, Frédéric, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il arrive, il est dans les couloirs, les ascenseurs sont un petit peu paresseux ces jours-ci, hein, France Inter. Donc Rolando Villazón, fameux ténor franco-mexicain, qui a d'ailleurs gravé un disque qui s'appelle Mexico, on va dire Mexico, comme on le dit là-bas dans son pays, et qui va donner surtout un concert samedi 3 décembre, salle Pleyel à Paris à 20h, dans le cadre des Grandes Voix, une série qui fête ses 20 ans maintenant, et au programme quoi, et ben, des chansons mexicaines avec les solistes Bolivar soloiste. Pour l'instant, Bésame mucho, embrasse-moi fort, on va dire en français, ou beaucoup, de Consuelo Velázquez, un compositeur né en 1916, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, en 2005.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la... Thank you.
bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
Bésame mucho, célébrissime de Consuelo Velasquez, interprété par notre invité, Rolando Villason. Bonjour Rolando.
Bonjour.
Oh là là, il réveille le studio, brusquement, magnifique. Comme vous avez réveillé le studio quand on s'est rencontrés en 2003 à Cannes.
Exactement.
Vous étiez révélation internationale des Victoires de la Musique et vous êtes venu chanter tellement gentiment dans cette émission qui s'était transportée là-bas à Cannes. Et
oui, on était
avec cette même énergie que je retrouve aujourd'hui. Alors là, vous chantez avec un ensemble qui s'appelle Bolivar Soloistes.
Oui.
Et ce sont des musiciens de tous les grands orchestres, de pas mal de grands orchestres du monde.
La Philharmonie de Berlin, de Munich,
carrément, oui.
El Sistema de Venezuela, parce qu'ils sont, la plupart sont de Venezuela.
Venezuela, c'est un orchestre, il y a tout un ensemble d'orchestres, mais il y en a un qui a été très connu par Gustavo Dudamel.
Dudamel, oui.
C'est à la fois une sorte d'école de la vie, parce qu'on prend quelquefois des jeunes qui auraient eu un destin difficile, qui seraient peut-être devenus des bandits. Il y a un clarinet.